Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. En souhaitant une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu, amen.
Amen.
Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a vraiment la vie de certains personnages qui sont absolument très très intéressants à étudier. Et moi j'aime beaucoup Abraham. C'est peut-être pas mon personnage préféré de l'Ancien Testament.
Mais
en tout cas, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de bruit, entre guillemets. Mais qui a été extrêmement efficace. Aujourd'hui, si vous êtes en Christ, c'est parce qu'il y a un homme un jour qui a cru. Un homme qui a reçu les promesses de Dieu et au travers duquel, au travers donc de la postérité duquel le Christ est venu. L'homme qui a reçu la plus grande des promesses de toute l'histoire de l'humanité. Et donc nous avons à apprendre de tels hommes. C'est pour ça que vous devez puiser dans la parole. Les richesses qui vous donneront des leçons de la vie. C'est vrai que la parole de Dieu ne parle pas d'ordinateur ou de satellite. Ou de voiture ou d'avion. Mais je vais vous dire une chose, elle a tous les secrets pour que nous puissions réussir avec le Seigneur. C'est pas un vieux livre dont on se sert uniquement le dimanche matin. Dans cette parole, il y a les choses les plus extraordinaires. Et la vie d'Abraham en est une illustration très particulière. Donc nous allons continuer à apprendre de cet homme. Il y a plein de choses intéressantes. Et nous avions commencé par, évidemment, le chapitre 12, c'est le début de sa vie, dirions-nous, vraiment, sa vie avec le Seigneur. On a vu que Dieu lui dit de partir. Et je vous rappelle que très souvent, si vous voulez aller loin avec Dieu, il va falloir que vous abandonniez les choses. Je crois qu'Abraham n'a jamais revu son père. Et vous savez, parfois, il y a un prix à payer. Abraham a payé un grand prix à propos de sa famille qu'il a laissée derrière lui. Même si cette famille ne servait pas Dieu, qu'elle adorait des démons, c'était quand même sa famille. Et il a tout laissé derrière lui. Il a laissé aussi la sécurité d'une ville, je vous le rappelle. On avait étudié cela. Rappelez-vous, lorsque Dieu vous demande de laisser des choses, c'est toujours qu'il a meilleur dans le futur. C'est comme ça que ça marche. Quand on se donne à Christ, c'est comme ça qu'on fait. La vraie conversion à Christ, ça passe par ce miracle de la nouvelle naissance. C'est abandonner sa vie pour retrouver une autre vie avec le Seigneur. C'est ça là, une vraie conversion, être un vrai chrétien, c'est ça. C'est laisser toutes sortes de choses derrière toi dont peut-être tu bénéficiais d'ailleurs, mais
tu
avais la direction de la mort éternelle. Et là, parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu as laissé ta vieille vie derrière toi pour courir une course nouvelle. Mais aussi, il faut que tu comprennes qu'il y a cette course à courir dans laquelle tu peux accomplir une destinée divine.
Moi,
vous savez, quand je me suis converti, j'étais dans des églises où on nous disait, bon voilà, on nous parlait vraiment du salut clairement. On nous parlait du baptême de l'esprit. La première église où on était, on nous donnait même vraiment les dons spirituels, la prophétie, les langues, l'interprétation. C'était quelque chose qui était très commun dans l'église. Mais bon, on n'avait pas de vision de destinée. La seule chose qu'on attendait, c'était le ciel. Et c'est pour ça que dans ce genre d'église à l'époque en France, eh ben, il n'y avait que des gens qui avaient vieilli avec l'église. Parce que les jeunes, quand ils commençaient à s'approcher et à se donner au Seigneur, ils
ne
voulaient pas rester. Parce qu'on ne leur donnait rien à faire, je dirais, aucune vision pour le temps présent. Et Dieu a quelque chose pour le temps présent. Cette vie que tu vis ici, bien sûr, tu as la sécurité de la vie éternelle, ça c'est clair. Mais Dieu veut que tu puisses t'épanouir dans cette vie. Si
tu as
laissé ta vieille vie de pécheur, maintenant il va falloir que tu vives cette vie nouvelle en Christ.
Et
pour ça, il y a des étapes, il y a des caractéristiques divines. Donc Dieu a toujours le meilleur. Nous avons vu vraiment Ésaïe 1:19 qu'on va réafficher s'il vous plaît. Ça c'est quelque chose qu'on doit parler. C'est vraiment quelque chose qui doit vous donner cette vision du meilleur. Si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais ça, c'est ton choix, mon frère, ma sœur. Ça ne t'arrivera pas demain. Mais si tu pratiques la parole, si tu es obéissant, si tu cours dans ta course, dans la course de ta destinée, tu convergeras vers manger les meilleures productions du pays. Ça ne se passera pas demain. Ça mettra du temps. Mais ça doit être un des buts que tu dois obtenir. Tu dois briller. Les gens doivent connaître ton histoire. Ils doivent savoir que c'est une belle histoire. Parce que Dieu était dedans. Et ça, c'est quelque chose que tu dois déterminer à l'avance. Donc nous avons vu, Dieu veut bénir et a béni Abraham afin qu'il devienne une bénédiction aussi, je vous rappelle. Et il a clairement dit, ceux qui vont te toucher vont avoir mal. Nous avons vu qu'Abraham était quelqu'un d'obéissant. Il part. Et la Bible nous dit clairement qu'il est parti sans savoir où il allait. Et je vous ai montré que vraiment, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Le Seigneur nous dit, quand il nous dit de faire quelque chose, il faut obéir. Le grand blabla de Seigneur, je t'aime Seigneur, j'irai partout où tu voudras et ne jamais obéir, ça ne marche pas avec Dieu. Fais attention à ce que tu dis à Dieu. Parce qu'un jour il te dira ce que tu lui as dit. Et c'est là où on verra vraiment si tu as un cœur obéissant. Donc ne fais pas des promesses insensées au Seigneur. Mais apprends à t'engager au fur et à mesure avec lui. Moi, j'ai vu beaucoup de gens raconter beaucoup de choses à Dieu. Mais quand on voit des années plus tard ce qu'ils ont accompli, bah, c'est bien dommage. Parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose pour pour Dieu.
En
tout cas, la grande majorité d'entre eux. On a vu qu'il n'y a pas d'âge pour commencer non plus. Abraham commence à 75, Moïse a commencé à 80 ans et Josué aussi. Donc je vous ai dit, ce n'est pas parce que vous vous êtes donné au Seigneur, même tardivement dans votre vie, qu'il n'y a rien devant vous. Ça c'est faux, c'est un gros mensonge du diable.
Si tu as
soif de Dieu, Dieu pourra t'utiliser.
Donc ne dis jamais,
si je m'étais converti plus tôt. Tu t'es donné au Seigneur quand tu t'es donné au Seigneur, c'est tout. Tu ne peux pas revenir en arrière. Maintenant, tu peux utiliser ces années que tu as, qui sont devant toi, pour le servir et l'aimer de tout ton cœur. Et Dieu t'utilisera partout où tu es. Alors, on a vu aussi que Abraham continue et marche jusqu'à temps qu'il arrive au pays de
Canaan.
Et je vous ai montré que quand Dieu vous donne une parole, continuez d'obéir jusqu'à temps que Dieu vous en donne une autre. Parce que ça, c'est une grave erreur que je vois dans les destinées. Dieu dit quelque chose à quelqu'un et au bout d'un moment, il commence à vouloir prendre une autre direction. Parce qu'il se lasse. Parce qu'il dit, ah oui, c'est vrai, le Seigneur m'a parlé là, mais moi, je voudrais que ça aille plus vite. La précipitation vous amènera toujours à commettre des erreurs dans votre destinée. Donc, c'est étape après étape. Je vous assure, ça c'est quelque chose. Hein. Vraiment, en leadership, on appelle ça la loi de la navigation. C'est que Dieu te donnera une grande mission. Mais il y a des étapes pour arriver là. Et je dis, et je le répète, et je le répéterai encore jusqu'à temps que ça rentre dans les cœurs. Il y a des étapes. Tant que Dieu, si Dieu t'a dit quelque chose, tu continues à faire ce qu'il t'a dit. Si c'est
5
ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe, tu continues. Jusqu'à temps qu'il te dise autre chose. Mais tant qu'il ne t'a rien dit d'autre, tu continues à faire ce que tu dois faire. Mais ce qui est très bizarre avec les gens, c'est qu'on a l'impression que Dieu se lève un jour et qu'il leur dit « va à droite ». Le lendemain, Dieu se lève, entre guillemets, et il leur dit « maintenant, va à gauche ». Non, Dieu ne change pas d'avis. S'il t'a dit quelque chose, tu obéis. Tu persévères. Ça va travailler ton caractère. Et ça va vraiment t'aider et Dieu va te tester à ce moment-là. Combien de fois j'ai vu des gens partir de cette église d'une façon précipitée et se planter. Quel dommage! Des années plus tard, vous les retrouvez, ils sont quasiment rétrogrades. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient tout et tout de suite. Avec Dieu, le tout et tout de suite, ça ne marche pas. Ça s'appelle la chair. Et si vous êtes charnel, vous n'accomplirez aucune destinée. Dieu testera votre obéissance. Il testera votre fidélité. Il testera votre persévérance. Parce que ce sont des qualités dont vous allez avoir besoin si vous voulez aller loin avec Dieu. Et si vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas aller loin avec Dieu. Et il y a bien des fois quand nous sommes obéissants. C'est là où Dieu va nous donner de la promotion. Trop de gens veulent de la promotion par eux-mêmes. Et ils essayent de s'élever eux-mêmes, de faire avancer les choses eux-mêmes. Et ça ne marche pas avec Dieu. Et quand ça ne marche pas avec Dieu, alors C'est là où il commence à rétrograder, où il commence à se refroidir, où aller vers n'importe quelle doctrine et être séduit par des esprits sataniques. Donc il faut vraiment faire attention. Donc Abraham continue jusqu'au moment où Dieu lui dit c'est là maintenant. C'est le verset 7. Et là on a une deuxième révélation. Et je vous rappelle, il n'y a pas de plan divin qui est révélé dans tous ses détails au début par Dieu. Dieu te donne une première grande ligne. Je vous ai montré comme si on envoyait une lettre d'un continent vers un autre. Je vous ai montré que d'abord on trie, la poste va trier par continent. Ensuite par pays. Ensuite par ville. La rue. Et le numéro. Et c'est la même chose avec Dieu. Ne cherchez pas à connaître toute la volonté de Dieu de A jusqu'à Z par des soi-disant jeûnes et prières en cherchant la face de Dieu pendant des jours et des jours. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur t'a parlé, gloire à Dieu. Il t'a dit d'être fidèle dans ce domaine-là, sois fidèle dans ce domaine-là. Travaille, tais-toi et ne te plains pas. Comme disait ma chère maman, souffre, mais souffre en silence. Je vous assure, les plaintes, il n'y a rien de pire. Dieu nous teste dans tout ça. Oh, pasteur, c'est difficile. C'est difficile. Non, il faut que tu apprennes. Et tu vas prendre sur toi, comme on dit si bien. C'est-à-dire, tu vas subir certaines choses. Et tu vas apprendre. Et ça va te former. C'est comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Donc l'obéissance de base est fondamentale. Je suis vraiment fâché avec toutes ces histoires de gens qui vont vous raconter tout un tas de soi-disant révélations qu'ils ont reçues alors qu'ils n'obéissent même pas à la base, à la parole de Dieu.
Et
ils précipitent tellement de gens dans leur ruine. Alors, Abraham ensuite va faire quelque chose. Dieu se révèle à lui à nouveau. Il lui dit, maintenant je te donnerai ce pays, je vous rappelle, verset 7. Et après, Abraham, il est dit, puis il leva son camp et alla se rendre dans les montagnes, à l'est de Bethel. Il dressa une tente entre Bethel à l'ouest et Aï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel.
Arikora, avayo, aja ku musozi wo ku ruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli. Ahashinga mahema, i Beteli hasigara iburengerazuba bwiwe. Ihayi hakaba iburasirazuba bwiwe, naho nyene ahubakira uhoraho igicaniro yambaza izina ryiwe.
Alors Abraham était quelqu'un qui avait une caractéristique très particulière qui est indispensable pour pouvoir réussir sa destinée.
Abraham hari kintu yari afise mu ngeso ziwe gikenewe kandi gihambaye cyane kugira ngo ushike mu byo Imana iguhamagarira.
C'était un adorateur.
Yari umuntu azi gusenga no guhimbaza Imana.
Et je vais vous dire une chose.
Reka mbabwire iki kintu.
Si vous n'êtes pas un vrai adorateur.
Nimba utari umuntu uzi kuba mu bwiza bw'Imana.
Vous ne pourrez pas découvrir les secrets divins.
Ntushobora kumenya amabanga
y'Imana. De la destinée.
Y'iyo Imana iri kurakujana.
Les vrais adorateurs. Vivent des choses que les autres ne peuvent pas vivre.
Abantu bazi kuba mu bwiza bw'Imana baraba mu bintu abandi badashobora kubamwo.
Tu peux être quelqu'un qui loue Dieu, c'est bien.
Urashobora kuba umuntu atazira Imana, ni
byiza. La louange, ça vient de notre âme, de notre personnalité.
Gutazira n'ingingo ufata bikaba mu mushaha wawe.
C'est très expressif.
Ukagaragaza ikikurimwo, ukagaragaza ikintu imbere y'Imana.
Mais il y a quelque chose qui va te manquer à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'adoration.
Ariko maze kuba mu gutazira Imana, ubusigaje kuba mu kindi bita guhimbaza Imana.
L'adoration va t'amener dans les lieux secrets avec Dieu.
Iyo uri kurahimbaza Imana bikwinjiza mu bibanza no vuga ngo vyera cyane canke mu kubana mu busabane bukomeye.
Il y a quatre choses choses que l'adoration amène dans la vie d'un être humain. La première, c'est la révélation. La révélation de qui est Dieu. Parce que quand la présence de Dieu vient sur toi fortement dans l'adoration, obligatoirement, Dieu te révèle des facettes de qui il est. Ça peut être par un temps où tu es dans la présence de Dieu et tu as besoin d'une consolation particulière. Et 5 minutes avec lui dans l'adoration et d'un seul coup, cette montagne qui était au-dessus de ta tête et qui t'écrasait complètement est complètement partie. Ça, c'est un secret extraordinaire. Dieu va révéler sa personne dans l'adoration. L'adoration est quelque chose d'ultra puissant. Qui amène cette révélation sur les facettes du caractère de Dieu. Aussi, ça amène des révélations sur la parole de Dieu. Quand
tu es
un vrai adorateur et qu'après tu commences à ouvrir la parole, la parole de Dieu fait comme ça, il y a du relief, tu vas la comprendre beaucoup plus facilement. Cette parole va se révéler d'une façon spéciale. Donc la première chose d'un vrai adorateur, c'est cet aspect de révélation de la personne de Dieu. Directement dans sa présence, mais aussi au travers de la parole. Qui d'un seul coup, par l'onction de l'esprit, parce que la présence de Dieu, c'est l'onction. Où tu vas découvrir des choses, tu vas dire, mais j'ai lu ce verset-là, waouh, ça te retourne complètement. C'est comme une révélation sur ce verset. Et tu dis plus, j'ai compris avec ma tête, tu dis, ça y est, maintenant je sais dans mon cœur ce que ça veut dire. Donc bien sûr, ça t'amène une dimension nouvelle. La deuxième chose que l'adoration fait, c'est que l'adoration est un refuge. C'est un refuge extraordinaire. Le psaume 91, vous pourrez lire à la maison. Mais vraiment, c'est un psaume extraordinaire qui nous montre la protection divine. D'être couvert par son ombre. C'est par sa présence. Et quand sa présence vient sur toi, alors il y a une sécurité divine. Parce que la parole de Dieu dit qu'on ne peut pas toucher à ceux qui sont loin de Dieu. Quand tu es puissant dans la présence de Dieu, il y a un monde spirituel autour de toi qui se met en branle, en marche, si vous préférez. En ta faveur. Concernant certains obstacles, certaines choses, certaines mauvaises présences qui voudraient intervenir dans ta vie. Donc il y a une protection particulière que Dieu va mettre sur toi. Les gens qui sont loin, qui vivent dans la présence de Dieu, ce sont des gens qui sont protégés. La troisième chose que l'adoration va apporter, c'est bien sûr la direction. Tu sais que tu sais. Et quand tu vas quelque part et tu sais que c'est pas la volonté de Dieu, tu sais que tu sais que c'est pas la volonté de Dieu. Tu le sais. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Si tu es un vrai adorateur, une vraie adoratrice, la paix qu'il y a dans ton cœur, c'est une paix qui te dirigera partout. Il y a tellement de gens qui disent, mais comment on fait pour écouter la voix de Dieu? Une des plus grandes clés, apprends à être un adorateur et écoute ton cœur. Il
ne
faut pas avoir un doctorat en théologie pour comprendre ça.
Il faut
simplement le pratiquer jour après jour.
Apprends
à être un adorateur. La présence de Dieu va venir sur toi très fortement. Et la paix qu'il y a, ou le manque de paix, sera clairement la direction ou la non-direction divine. C'est pour ça que ceux qui ne veulent pas passer du temps dans sa présence, c'est les gens qui font une grave erreur. Parce que souvent, ils sont confus dans la direction divine.
Si
la direction divine pour toi est compliquée, c'est-à-dire que c'est difficile à trouver, tu dis, je ne sais pas comment faire, je ne comprends pas. Apprends à être un adorateur. Tu verras, les choses vont se simplifier à l'extrême. Après, tu sauras, et hop, tu avances. Tu te lèves un matin et tu dis, ah, c'est le temps de faire ça. Le Seigneur me l'avait dit il y a 10 ans, mais maintenant c'est le cas. Et hop, ça fonctionne comme ça, parce que tu sais, tu ne peux pas l'expliquer. C'est des choses qui ne s'expliquent pas dans le sens quand tu les reçois. Parce que c'est les informations internes que le Seigneur te donne. Et tu sais que c'est le temps, c'est maintenant, il faut que tu fonces. Et d'autres personnes te diront, même si c'est des gens qui marchent dans la foi, te diront, moi, est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est bien ça que tu as reçu? Mais tu le sais. Tu le sais. Et rien ne peut t'enlever ça. Tu le sais. Tu le sais. C'est tellement à l'intérieur de toi et tu le sais que même s'il peut y avoir 1 million de circonstances contre toi, tu sais que c'est ça que tu dois faire. Et le futur te donnera raison. Moi, c'est ça que j'aime avec le Seigneur. Vous savez, quand Dieu nous parle, ce n'est pas demain que les circonstances te donneront raison. Je dirais même que très souvent, les circonstances te donneront tort dans les prochaines années.
C'est pour
ça qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous vous méprenez par rapport à la volonté de Dieu. Non, les circonstances ne te donneront jamais raison quand tu commences à marcher dans ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Dans les jours suivants, ces circonstances ne te donneront jamais raison. Des fois, même dans les mois suivants. Des fois, dans les années même suivantes. Et même des fois plus encore. Mais tu réaliseras avec le Seigneur que des fois tu vas poser des actes d'obéissance. Ou souvent les gens te diront, mais pourquoi tu as fait ça? T'aurais mieux fait de bla 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 bla. Sauf que 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, les gens qui t'ont dit ça sont très 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 loin derrière toi. Alors qu'ils étaient bien devant toi, ils paraissaient bien avancés dans le Seigneur, sauf qu'ils n'avaient pas compris ce grand principe très simple mais très puissant. Non, les circonstances ne seront pas pour toi au début. Au contraire, elles sont souvent contre toi. Abraham, au début, ça n'a pas été facile. Comme toute personne qui d'ailleurs obéit au Seigneur. La quatrième chose que l'adoration fera pour vous, c'est qu'elle vous influencera à faire les bons choix.
bizogufasha gufata ingingo nziza.
Vous serez influencé par le royaume de Dieu.
Uzosanga ubwami bw'Imana buriko burakuyobora.
Et vraiment ça vous influence dans les bons choix.
Usange uri kufata ingingo nziza kubera ico.
C'est pour ça que quand je vois des gens faire de mauvais choix.
Nico gituma iyo mbonye abantu bafashe ingingo mbi.
Souvent je me dis mais est-ce que ces gens-là comprennent réellement l'adoration qui est Dieu réellement?
On
parlera de l'opportunisme.
Les
gens qui cherchent toujours à dire qu'est-ce que je peux tirer tout de suite de la situation. On verra dans l'histoire d'Abraham qu'il y a quelqu'un qui était un opportuniste.
Quelqu'un
qui était tout proche de lui et qui a tout loupé d'ailleurs. Donc Abraham, c'est quelqu'un qui va faire quoi? Qui va être un adorateur. Il est là, il invoque Dieu. Et il était vraiment, il avait des critères divins pour faire avancer sa destinée. Maintenant, au verset 9, il va y avoir quelque chose qu'Abraham va faire. Pourquoi il l'a fait, on ne sait pas. Mais à mon avis, il a commencé à faire une erreur ici. Pourquoi? Parce qu'il va aller dans le Negev. Le Negev, c'est au sud d'Israël, c'est le désert du Negev.
Yagiye ahantu bise ngo Negebu ni mu majepfo ya Israeli.
Qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers le sud, vers le midi, vers le désert?
Nigiki chatumye aja ibumanuko mu majepfo mu bugaragwa.
Comme nous allons le voir d'ailleurs, il va faire une boucle, il va tourner en rond.
Bere turaza kubiraba ingene yagiye yazungurutse ntiyavuye aho yarari yarazungurutse gusasubira hahandi.
Et je vais vous donner la bonne méthode si vous voulez tourner en rond et perdre toutes les années que vous voulez perdre.
Vous
savez, il y a des gens, on voit qu'ils ont un problème, ils tournent en rond. Et je vais vous montrer comment faire pour tourner en rond, c'est-à-dire ne rien faire tout en paraissant faire des choses pour Dieu. Donc il avance, il continue ses marches. Pourquoi est-ce qu'il est parti d'où il était, on ne sait pas. Verset 10 maintenant, il va rencontrer quelque chose. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. On va continuer jusqu'à la fin du chapitre, s'il vous plaît. Merci. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme, belle, de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est ma femme !» Et ils me tueront et te laisseront la vie. » On va expliquer tout ça. Verset 13, « Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, sa femme, la femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme maintenant? Voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Pharaon donna aux ordres à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Alors, Abraham, en fait, va revenir au point de départ un peu plus loin, comme nous allons le voir.
Et
on va juste lire le verset 1, s'il vous plaît, du chapitre 13, comme ça on va le voir. Voilà. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, sa femme et tout ce qui lui appartenait, Lot avec lui.
Abraham araduga ava muri Egiputa abona umugore wiwe n'ivyiwe byose na Loti ajana nawe baja i Negebu.
Donc regardez bien ce qui s'est passé ici.
Aha rabi kintu cabaye ngaha.
Il y a une famine.
Hariho inzara yateye.
Abraham est dans le Negev, dans le sud d'Israël.
Abraham,
dans le désert.
Abraham ari muri Negev no kuvuga mu manuko bwa Israeli.
Il vit des circonstances difficiles.
Abiri kwaba mu bihe bitoroshe bigoye.
Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en Égypte. Et là en Égypte, il va rencontrer un incident qui a failli lui faire perdre toutes ses promesses.
muri Egiputa ahura n'isanganya ryahatswe gutuma atakaza amasezerano yose yari afise y'Imana.
Si Dieu n'était pas intervenu miraculeusement, Abraham aurait tout perdu.
Iyo Imana itaza kwigaragaza mu buryo butangaje, Aburahamu yari gutakaza byose.
Et après cet incident qui a failli tourner à la catastrophe,
inyuma y'iki kintu cyahatswe kumutuma ahusha byose,
eh bien Abraham va se retrouver où? À la case départ, d'où il était parti. Il a passé du temps à ne rien faire. Il a dépensé de l'argent. Il a failli tout perdre. Et il revient à la case départ. Ça s'appelle tourner en rond en français. Ça veut dire, tu t'agites, tu bouges, tu fais ceci, tu fais cela, mais le résultat de la productivité divine égale 0 plus 0 égale la tête à Toto.
Donc vous voyez, ngo kuguma muri vya bindi ukaboneka nkaho mengo uri gukora ibintu byinshi mugabo bikaba ubusa guteranya ubusa bingana n'ubusa.
On apprend ça quand on est enfant. 0, voyez, vous faites 0, ça fait un œil.
Urabona ubusa.
On dessine, en fait, on dessine la tête de quelqu'un.
Ubusa bumeze nk'urujisho rw'umuntu.
Donc 0, tu fais un rond comme ça, ça fait l'œil.
Urumva ngo n'urujisho rumwe ubusa bwa.
Tu mets un plus pour faire.
Ugacugira guteranya na kazuru.
Ensuite, tu mets plus 0, le deuxième œil. Tu mets égal à l'endroit de la bouche. Et tout ça égal un grand 0, tu entoures tout ça en 0 et ça fait la tête. C'est l'idée qu'on ne fait rien, on n'accomplit rien. Voilà. Tu t'agites pour rien. Et je vais vous montrer comment très souvent nous les chrétiens on s'agite. Et qu'on fait l'égalité du 0 plus 0 égale la tête à Toto. C'est très simple. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé Toto seulement. Mais une chose est sûre. Je vais vous montrer exactement comment dépenser de l'énergie et ne rien produire. La clé se trouve verset 10. Il y eut une famine. Il y eut une famine dans le pays. Voilà typiquement la façon dont les chrétiens vont réagir aux mauvaises circonstances. Quand Dieu te donne une parole,
que
tu obéis, ne pense pas que tout va être tout simple et que tout va se passer à merveille sans opposition. Non, rappelez-vous les disciples. Jésus un jour leur avait dit de monter dans la barque. On va retrouver ça dans Marc chapitre 5 si mes souvenirs sont bons. Dans Marc 5, je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Verset 35. 4, excusez-moi, 4, 35, excusez-moi, 4, 35. C'est Marc 4.
Marc 4, 35.
C'est vraiment intéressant de voir cette illustration ici. Verset 35, il est dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait tranquille donc. À la poupe, sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa il eut un grand calme.
Arikangura azibiza ingunza abaririkiya gati hora utekereze umuyaguraca habagahwe kere gose.
Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi?
Arababaza ati niki kibateye ubwoba ntimurizera.
Ça illustre tout à fait ce que je vais vous expliquer ici.
Ibi inye byerekana ibi nako ndavuga mukanya.
Quand Dieu vous parle,
Imana iravuganye nawe.
Il va y avoir des circonstances qui vont se lever contre vous.
Haje ibintu bikugwanya.
Quand tu commences à obéir à Dieu,
iyo utanguye kumvira Imana,
tu vas avoir des circonstances contre toi.
Urasanga hari ibintu bihagurutse
kukugwanya. Tu vas avoir des gens qui vont s'agiter contre toi.
Hari abantu bahaguruka kukugwanya.
Des fois des gens qui étaient calmes, qui étaient pratiquement tes amis, qui deviennent quasiment tes ennemis.
Abantu bamenga nabagenzi mu ntango mukanya gato bagacika abansi bawe.
Tu vas avoir des moments où il va y avoir une certaine souffrance.
Hakabaho ibihe byo kubabara by'imibabaro.
Parce que tu obéis.
Kubera ko wumviye Imana.
Il y a un temps de souffrance dans l'obéissance.
Habaho ibihe byo kubabara iyo wahisemo kumvira Imana.
Où tu ne vois pas encore ton Canaan, ton pays promis, ta destinée.
Ugasanga n'ahantu nturabona Kanani yawe iyo uri kuraja iyo uhamagarirwa kuba.
Et on est d'ailleurs à des kilomètres et des kilomètres, je dirais même à des milliers de kilomètres.
Ugasanga uri kure yaho cyane ku birometre igihumbi ari kure gose utanahabona.
Était dans la confusion.
Ugasanga urazazaniwe.
Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ngomana kuberiki?
Pourquoi est-ce que tu permets ça?
Mane ibi bintu wavyemeye kuberiki?
Pourquoi est-ce que tout ça, ça ne va pas?
Mane ibi bintu kuberiki bitari kuberagenda neza?
Pourtant, je croyais bien que tu m'avais parlé.
Ko je nari nemezwa neza ko wavuganye nanje.
Alors juste avant ça, c'est pas je croyais bien que tu m'avais parlé, c'est que tu étais en train de dire à tout le monde, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit.
Ugasanga imbere yaho wari kurabwira abantu bose utireka ndababwira iby'Imana. Imana yambwiye ibi n'ibi n'ibi.
Ah, quand Dieu vous a parlé, vous avez sonné de la trompette et dit à tout le monde ce que le Seigneur vous a dit.
Imana ikivugana nawe wafashe inzamba kugira uvyamamaze bose bamenye
ibyo. Mais quand ça commence à chauffer,
ariko bitanguye gushuha kugushuhana.
Seigneur, je croyais que tu m'avais parlé.
Ngomana none hajya si wavuze.
Voyez, on est en train de remettre en question.
Ugatangura kubisubiza inyuma byose.
Pourquoi? Parce qu'il y a de l'opposition.
Kubera haje ibintu biriko birakugwanya.
Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait une promesse.
Imana yaratanze isezerano.
Et il y a un temps difficile qui arrive.
Maze hagaca haza ibihe bitoroshe bigoye.
Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps difficile?
None mu bihe bigoye uravyifatamwo gute?
Il y a des choses classiques que nous faisons quasiment tous quand il y a des temps difficiles.
Iyo haje ibihe bigoye hari ukugena nka twese dukunze kwifata.
Quand on n'a pas de maturité.
Iyo usanga tutaratembere tutarakura.
Alors, la première chose que souvent on fait comme bêtise, quand il y a de l'adversité alors que Dieu nous a parlé, c'est qu'on s'écarte de notre territoire de destinée. On cherche un endroit plus facile. Apparemment plus facile. C'est ce qu'Abraham a fait. Il était là, il s'est dit, en Égypte, il doit y avoir à manger. Parce qu'Abraham avait beaucoup de richesses. Mais il s'est dit, comme il avait beaucoup de troupeaux, il s'est dit, je risque de perdre mes troupeaux. Je risque d'être obligé de payer la nourriture beaucoup plus cher. Certainement qu'il a réfléchi à beaucoup de choses. Et il a quitté son territoire de destinée. Il est sorti de la volonté de Dieu. Et ça, c'est très dangereux, frères et sœurs. Si tu commences à sortir de ton territoire de destinée, tu risques de te retrouver avec des choses qui vont complètement, je dirais, diluer ta vie. Vous savez, quand il y a par exemple du concentré quelque part.
Par
exemple, vous prenez du sirop. Si vous prenez du sirop, que vous prenez un grand verre, et vous mettez une goutte de sirop, vous direz que vous avez de l'eau avec du Le sirop ne va pas faire grand-chose dans l'eau. Vous
n'allez
même pas le ressentir. Par contre, si vous versez moitié de sirop, si vous aimez très sucré comme moi par exemple, et moitié d'eau,
ariko ufashe ugafata igice cyasiho ugashiramo n'igice cy'amazi.
Là vous allez avoir quelque chose qui a beaucoup de goût.
Usanga biryoshe.
Quelque chose qui a beaucoup de goût.
Bisosa gose biri mu iswari nyinshi.
Abraham va faire une grave erreur ici.
Abrahamu yakoze ikosa rikomenga.
Il va sortir de son territoire de destinée.
Ava mu gihugu ciwe cy'umugisha cy'umuhamagaro.
Et il va risquer justement de délayer, il a risqué de délayer sa vie, c'est-à-dire l'objectif n'était plus de voir les promesses de Dieu s'accomplir.
Intumbero ntiyari kiri kubona umugambi w'Imana ushika.
C'était de se sauver du moment présent, de la difficulté présente. Les disciples dans la barque étaient dans la volonté du Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui leur avait dit « Montez, on va traverser ». Donc ils étaient bien au bon moment, au bon endroit, à faire ce que Jésus leur avait demandé. Ils auraient pu dire « Non, 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 tu sais Jésus, en ce moment il peut y avoir des tempêtes sur le lac, moi je préfère qu'on fasse le tour à pied ».
Non,
c'est Jésus qui leur a dit « Passons de l'autre côté ». Ils viennent au milieu du lac et ils se retrouvent dans une tempête gigantesque. Et ils ont peur. Ils ont peur. Vous savez, parfois, quand vous obéissez à Dieu, il y aura des circonstances qui vous secoueront de tout ce que vous pouvez être secoué.
Iyo wumviye imana harashobora kuza ibintu bishobora kukunyiganyiza mu buryo bwose bushoboka.
Les attaques pourront venir de partout.
Ibitero bishobora kuza bivuye mu mpande zose.
Vous pourrez être dans un feu gigantesque.
Ushobora kuba uri mu muriro ukomeye.
Et moi je vais vous dire une chose.
Reka ndababwire iki kintu.
Je préfère être dans un feu au milieu, au centre de la volonté de Dieu.
Ni noshima kuba mu muriro mwinshi mugabo ndi hagati na hagati mu bwombe bw'Imana.
Qu'être en train de dormir quelque part.
Hakomba ndahantu nsinziriye.
À être complètement en dehors de ma destinée. Parce que je préfère vivre dans le feu parce que je verrai la gloire de Dieu. Et que Dieu nous fait toujours sortir des situations les pires. Même les moments difficiles. Ou peut-être que ta famille s'oppose à toi. Peut-être qu'au travail, on te fait les pires trucs parce que tu magouilles plus avec les autres. Parce que tu as pris certaines directives et rien ne semble marcher. Mais tu sais que tu devais le faire.
Que
le Seigneur t'a vraiment parlé.
Et
bien, sache une chose. Il y aura peut-être des tempêtes. Mais le Seigneur se montrera tôt
ou
tard. Abraham a fait une erreur. Il a failli perdre sa femme. Donc les promesses de descendance. Parce que nous verrons que Dieu avait quelque chose de très spécifique dans sa promesse. C'était Abraham et Sarah qui devaient avoir un fils.
Abraham na Sara bari bahamagariwe kuronka
umuhungu. Qui serait le fils de la promesse.
Akaba umuhungu w'isezerano.
Qui allait hériter de toutes les promesses de son père.
Akaronka amasezerano ya se wiwe yose.
Et au travers duquel il y aurait la descendance d'Abraham qui allait commencer.
Biciye muri yo hakaba urubyaro rwa Abraham rugiye kuzovuka.
Donc la promesse était très précise avec des ingrédients précis.
Uruva isezerano ryari ritomoye rifise n'ibi riherekeza bitomoye.
Et que Dieu allait donner un territoire immense à sa descendance.
Imana yagirita
nous verrons qu'il va y avoir un empiètement, c'est-à-dire une partie de cette promesse qui ne se réalisera pas, ça sera limité. On verra ce que notre obéissance ou désobéissance peut faire.
Peut
créer notre destinée. Abraham s'écarte de son territoire de destinée. Et il se retrouve dans une circonstance encore plus incontrôlable. Et là, il y a quelqu'un qui est supérieur à lui. En tant qu'homme, le pharaon qui veut prendre sa femme. Dieu est obligé d'intervenir miraculeusement. Et Dieu le fait dans certains cas. Mais il y a des cas où on perd tout.
Alors
là, c'est vraiment la souveraineté de Dieu. On
ne
peut pas faire de commentaires là-dessus. Il y a quelques cas de la parole de Dieu qui nous montrent cela.
Et d'autres,
des gens ont tout perdu. À cause de leur désobéissance. Dieu préviendra plus tard le fils d'Abraham, Isaac. On va regarder ça dans Genèse 26.
Turabira hamwe muri itanguro 26.
Dans Genèse 26,
itanguro 26.
Dieu va prévenir Isaac de ne pas faire l'erreur de son père.
Imana igabisha Isaka ngo ntakore ikosa nk'iryo se wiwe yakoze.
Chapitre 26 jusqu'au verset 4, eh bien, on va voir les mêmes genres de circonstances avec le fils, la génération d'après.
Aturabana dusome gushaka ku murongo wa 4 turabe amakosa ameze nka yandi kuva ku murongo wa mbere.
Alors, verset 1, il nous dit, il y eut une famine dans le pays. Oh, ça recommence. Mais ça, là, on va voir que c'est Isaac, Genèse 26. C'est plus Abraham. Abraham est déjà décédé. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. C'est la famine que nous avons étudiée, Genèse 12. Là. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, regardez bien, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai.
Ngo hatere yindi nzara ya kabiri muri ico gihugu atari imwe ya mbere yo mu gihe cya Aburahamu Isaka ajigerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya Uhoraho aramwiyereka ati ntumanuke nguje muri Egiputa ngo uzube mu gihugu nzokubarira ba urasokiye muri iki gihugu nanze nzobana nawe ngo umugisha kuko wewe n'urubyaro rwawe nzobaha ibi bihugu byose kandi nzokomeza indahiro narahiye Aburahamuso.
Le Seigneur lui dit après qu'il va le bénir dans ce pays. Séjour dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père.
Donc
Isaac, Dieu prévient Isaac qu'il ne fasse pas la même erreur que son père. Il se retrouve dans les mêmes circonstances. Isaac va obéir. Et la Bible nous dira juste un peu plus loin au verset 12. Isaac sema dans ce pays, récolta cette année au centuple car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être vraiment fort riche.
Maze Isaka abiba muri ico gihugu muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ibyo yabivye ingeri jana Uhoraho amuha umugisha uwo mugabo aba umutunzi agenda rushiriza gushitsaho yabereye umutunzi bihebuje.
Voyez, il est resté lui dans son territoire de destinée. Et malgré les circonstances adverses,
kandi nubwo bitari byoroshe,
Dieu l'a béni. Dieu te bénira partout où tu obéis. C'est obligatoire. S'il te demande d'être quelque part où le terrain est dur, c'est vrai que tu risques d'avoir des difficultés. Il y aura des tempêtes. Il y aura des moments de découragement. Nous allons en parler, c'est la deuxième réaction des gens. Mais apprends à persévérer là où Dieu t'a parlé. Parce que c'est exactement ce que Isaac a fait. Il a planté et Dieu l'a béni au centuple, imaginez-vous.
Il
y a quelqu'un qui a déjà planté une graine et qui a récolté 100 graines par graine. Je
ne
sais pas, les agronomes, ce n'est pas normal. En général, c'est quoi, 10, 15, 20, 100. 100, c'est rare. Je ne sais même pas dans quel domaine. Certaines plantes, peut-être, mais ce n'est pas la majorité. Sinon, tous les paysans de la terre seraient très riches. La Bible nous dit qu'il a récolté au centuple. Dieu l'a béni là où il était. Dieu te bénira là où tu es dans ton territoire de destinée. Si tu en sors, tu ne pourras pas avoir la bénédiction de Dieu. Au contraire, tu vas te mettre dans une position où tu risques de rétrograder. Et ça, c'est très dangereux. Des années plus tard, on voit ces gens, ils sont complètement endormis. Ils étaient en feu pour Dieu. Quelques années plus tard, ils sont complètement endormis. Dieu leur parlait les premières années. Vraiment, on voyait une destinée extraordinaire. Mais il y a un bouffeur de destinée qui s'appelle le diable. Et tristement, parfois, le meilleur collaborateur, c'est celui qui a la destinée. C'est étonnant de voir comment des gens se font bouffer leur destinée. Ils participent, ils prennent presque la main du diable et ils y vont ensemble. La deuxième chose que l'on voit quand il y a l'adversité, c'est le découragement. Le découragement. Tu es là. Et en fait, Dieu te dit, voilà, tu vas pouvoir monter tout en haut de la montagne. Mais tu es devant la montagne et tu as fait les premiers pas et tu es complètement épuisé. Et le découragement amène de très mauvaises choses dans nos pensées. Le découragement souvent va nous amener dans le péché. Va nous amener à prendre des mauvaises décisions. Va complètement nous anesthésier parce qu'on n'a plus le goût à prier. À chercher la face de Dieu. Et le découragement, souvent, ça vient quand on ne sait pas correctement utiliser le temps à notre avantage. Tu es découragé parce que rien n'avance. Mon frère, ma soeur, si tu obéis au Seigneur, tôt ou tard, ça va percer. Le problème, c'est que souvent les gens se découragent pour un oui ou pour un non. Et je vous ai dit, la persévérance, qu'on a bien définie la dernière fois, c'est-à-dire l'application des lois spirituelles jusqu'à temps que la vie de Dieu amène l'influence du royaume. Jusqu'à temps que vraiment l'influence du royaume de Dieu agisse dans nos situations. C'est quelque chose qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Personne ne peut réaliser une destinée sans persévérance. Si tu es du genre à te décourager toutes les 5 minutes, il va falloir que tu te repentes. Parce que les choses de Dieu ne se passeront jamais dans ta vie du jour au lendemain. Ces promesses mettent un certain temps à s'accomplir. Et il y a des raisons pour cela. Une des grandes raisons, c'est que Dieu doit apprendre à te faire confiance. Et ça va mettre du temps. Il te confie certaines choses et il voit ce que tu fais avec. Puis il va t'en confier encore plus. Mais très souvent, quand nous voyons l'opposition, ce sont les deux choses qui se passent. On s'écarte de son territoire de destinée ou alors on se décourage. Et malheureusement, Abraham, c'est ce qu'il a fait au départ. Il s'est retrouvé dans des difficultés et Dieu vraiment l'a sauvé d'une façon miraculeuse, comme je vous le disais. Alors finalement, on va regarder le chapitre 13 maintenant. Abraham, il a pris une leçon ce jour-là. Vous voyez, ça nous montre aussi que Dieu peut faire de grandes choses avec des personnes qui sont loin d'être parfaites.
Abraham
n'était pas parfait, il a fait ses erreurs. Ça a été la première. La première, c'est j'ai une promesse, je suis sur le bon territoire, je suis là où Dieu me demande. J'ai obéi à Dieu au premier degré. Et maintenant, ma foi est testée. Ma foi est éprouvée. Qu'est-ce que je vais faire? Donc nous allons voir, il avait des points forts, Abraham, des points très forts dans son caractère. Nous allons d'ailleurs le voir au chapitre suivant. D'excellents traits de caractère, mais il avait aussi ses faiblesses. Et c'est pourquoi, là on le voit, la première chose c'est le décourage, enfin, il voit qu'il y a de l'adversité, donc il sort de son territoire de destinée.
Urumva ubwa mbere yabonye ko hari umwansi ikintu kimugoye acarava mu mugambi w'Imana ubwa mbere.
Donc chapitre 13 verset 1, il se retrouve à l'endroit d'où il était parti.
Maze ku murongo wa mbere asubira aho yarari mu ntango.
Ouf, il s'est sorti de ce mauvais pas.
Maze arashobora kuva hahantu habi yaragiye.
Parfois vous savez on fait des mauvais pas et on s'aperçoit, je vous assure, quand il a vu que Pharaon voulait embarquer sa femme, il a dit qu'est-ce que je vais faire? Il a pensé à ses promesses, il a pensé à tout ça, d'un seul coup il s'est dit mais tout va se casser la figure. Et vous savez, c'était la coutume de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de loi civile. Ces pharaons faisaient ce qu'ils voulaient.
Je
vous rappelle que les nations telles que nous les connaissons aujourd'hui, elles n'étaient pas aussi bien définies, très loin de là. C'était des peuplades et sur des territoires, et quand vous arriviez sur leur territoire, vous pouviez être tué, on pouvait vous piller, on pouvait faire tout et n'importe quoi, et vous n'étiez absolument pas du tout puni puisque les tribunaux n'existaient pas.
En
Égypte, il y avait quelques lois. Mais le pharaon faisait ce qu'il voulait. C'était pas la démocratie, nous en étions très loin. C'était simplement un pharaon qui gouvernait. Il pouvait dire toi là, tu vas mourir aujourd'hui. Et il pouvait le tuer s'il voulait. Et personne faisait quoi que ce soit contre le pharaon. Toi là, tu vas être puni, tu vas aller en prison. Il mettait directement en prison. Il régnait en souverain total sur son pays. La femme d'un tel lui plaisait, il pouvait la prendre. Et le monsieur n'avait rien à dire.
Il pouvait se faire tuer,
sinon.
Et
ces gens-là faisaient tout et n'importe quoi, tout ce qu'ils voulaient. Alors la Bible nous dit, verset 2, Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négev jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé ses tentes au commencement, entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Vous voyez, il revient en arrière. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leur bien était si considérable, qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs devant l'Éternel. Verset 14, l'Éternel était à Abraham après que Lot se fût séparé de lui. Lève donc les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, le midi, etc. Ça, on va étudier ça juste après. Ici, nous allons parler d'Abraham et de certaines qualités de caractère qu'il avait. Parce qu'Abraham va avoir des traits de caractère très particuliers. Et vous savez, quand vous voulez réussir votre destinée, il est important de comprendre que, au point de vue relationnel, il y a des choses à faire et des choses à éviter.
Et
là, il va y avoir un incident relationnel qui va être créé dans la famille d'Abraham. Avec son neveu Lot. Lot était son neveu.
Lot rero yari umwishwawe. Barakivuga.
Steve, tu as oublié mon neveu en Kirundi. C'est un grave péché ici. C'est bon, vous êtes d'accord entre l'Est, le Sud, le Nord, l'Ouest, Bujumbura, Ngozi, ça va, c'est bon, vous êtes à peu près d'accord sur l'Est. Bon, c'est bon, alors ça va. Alors, donc, il était de sa famille directe. Et en fait, il va y avoir cet incident qui va se créer. Et on va voir les qualités de cet homme.
Abraham
avait ses faiblesses, mais Abraham avait des grandes qualités. Donc Dieu les avait fait prospérer de manière incroyable. Et là, nous avons un autre personnage qui rentre en ligne de compte, il s'appelle
Lot.
Lot ne savait pas et ne comprenait pas l'immense bénédiction qu'il tirait de la vie d'Abraham, du fait d'être proche d'Abraham. Lot, quand il va être livré à lui-même, va passer d'un homme prospère qui était influencé par Abraham, son oncle, où sans s'en rendre compte, il drainait l'onction qu'il y avait sur Abraham. Vers un homme qui va complètement gâcher sa destinée. Lot terminera comme un homme complètement naufragé.
Lot yarangije nabi nk'umuntu menga atwawe.
Quelqu'un de traumatisé quand il va voir la destruction de Sodome et Gomorre et que sa femme va devenir une statue de sel. Lot va tout perdre. Alors qu'il pensait tout gagner, parce que c'était ce qu'on appelle un opportuniste. Lot va terminer avec un drame familial où ses filles vont coucher avec lui, donc l'inceste, pour avoir une postérité qui serait une postérité qui servira le diable. Alors que quand il était proche de cet homme de Dieu, il bénéficiait de la connaissance d'Abraham. Il bénéficiait de l'onction de prophète, parce qu'Abraham était le premier qui a été nommé prophète. Ça n'a pas été le premier prophète de l'histoire de l'humanité. Mais nous verrons qu'Abraham était prophète. Et le fait qu'il se sépare comme cela, parce qu'il y a eu des querelles relationnelles, il s'est retrouvé déconnecté de l'onction. Et ça a été le début de la descente aux enfers. Alors qu'au départ, le choix de
Lot
paraîtra un choix très judicieux, c'est-à-dire quelque chose qui paraissait très bien. Sauf que le problème de Lot, c'est comme c'était un opportuniste. Il voyait courtement. Il voyait au jour le jour ce dont il pouvait profiter. Sans penser au futur. Et nous verrons la prochaine fois les caractéristiques des opportunistes. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.